Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour pour cette nouvelle édition de Micro Rebelle Hebdo. Nous sommes donc en direct des studios de Micro Rebelle à Liévin, au 13 rue Victor Hugo, à quelques dizaines de mètres de la place Gambetta, au centre de Liévin. Et je suis avec Luc à la technique. Bonsoir Luc.
Salut à toutes et à tous, salut Lucien.
Et également avec Aurélie. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir.
Eh bien donc, Micro Rebelle Hebdo, c'est le magazine diffusé chaque semaine en direct de 18h à 19h sur microrebelle.fr et rediffusé par différentes radios associatives, hein, membres de la FRANF, la Fédération des radios associatives du Nord de la France. C'est le cas de Radio PFM à 99.9 à Arras qui rediffuse Micro Rebelle Hebdo le vendredi soir à 20h, le samedi matin à 7h30 et le dimanche à 14h. C'est également le cas de Radio Plus 104.3 à Douvrin qui diffuse, et nous les remercions, Micro Rebelle Hebdo chaque mardi à midi. Micro Rebelle Hebdo, c'est l'actualité hebdomadaire, hein, dans le bassin minier et au-delà, l'agenda culturel et social. On va justement démarrer sans attendre par cet agenda culturel et social qu'on va vous présenter à deux voix, Aurélie et moi.
Le samedi 19 octobre, on se retrouve pour une conférence et discussion avec Pierre Chopineau de l'organisation antiraciste Romani, La Voix des Roms. Donc, cette conférence portera sur les résistances roms face à la politique nazie. Le but de cette conférence sera donc d'apporter un nouvel éclairage sur ce génocide généralement méconnu. L'association La Voix des Roms parlera de la genèse, des modalités d'application, des conséquences de cette politique d'extermination et comment les Roms ont résisté face à elle. Ça se passera à la médiathèque du Vieux-Lille, place Louise de Bétigny. Le samedi 19 octobre de 15h à 17h, l'entrée sera libre.
Dimanche 20 octobre, on a grand plaisir d'annoncer une initiative de nos amis de Radio PFM et notamment de nos amis de l'émission Les Comptines du Forgeron. Alors, Les Comptines du Forgeron fêtent leurs 5 ans. C'est une émission musicale diffusée, comme on s'en doute, autour du métal. L'équipe des Comptines du Forgeron, notamment Adrien et Damien, souhaite fêter les 5 ans de leur émission et vous invite toutes et tous ce dimanche 20 octobre à partir de 17h dans les studios de Radio PFM, place de l'Ancien Rivage à Arras. Vous y êtes invités à participer à des échanges musicaux, des jeux et un apéro autour du thème de la musique hard rock metal. Que vous soyez un fin connaisseur ou un parfait profane, il y a de la place pour tout le monde et vous avez forcément un morceau de bon gros rock, hard rock, punk ou metal qui traîne dans vos archives. Les jeux ont également été conçus pour que même en ne connaissant pas du tout le style, vous puissiez y prendre part et vous amuser. Et bien sûr, c'est Damien et Adrien qui ramènent l'apéro et il y a fort à parier que vous n'aurez pas soif de la soirée. Dimanche 20 octobre, les 5 ans des Comptines du Forgeron à Radio PFM à partir de 17h.
Le lundi 21 octobre, cette fois-ci, on se retrouvera pour une réunion mensuelle des objecteurs de croissance 62 de 19h à 20h30 au LAG, 23 avenue Jean Jaurès à Liévin. On vous y attend.
Agenda le jeudi 24 octobre, c'est une réunion du collectif Climat du bassin minier. Cette réunion ouverte, publique, hein, ouverte à toutes et tous, se tient à 18h30 au café Saint-Hubert, place de la mairie à Losanguel, donc ce jeudi 24 octobre.
Le samedi 26 octobre, c'est l'assemblée ouverte de Micro Rebelle. Vous y êtes les bienvenus. Micro Rebelle propose à ses adhérents et adhérentes, ainsi qu'à ses auditeurs et auditrices, de se retrouver dans le cadre d'ateliers d'échange autour des émissions radiophoniques mises en œuvre par Micro Rebelle.
Week-end, le samedi 26 octobre et le dimanche 27 octobre, autour du cinéma. C'est une initiative de la revue Espace Marx, de nos amis de Radio Campus Lille, du collectif Léo Ferré et de la ville d'Elem. Ce sont donc des journées autour du cinéma avec des ateliers d'écriture, des conférences sur le cinéma et des projections de films dont, en avant-première, le film de Gilles Balbastre, Gaz et Flouze à tous les étages. Ça se passe à partir de 10h à la salle du Cursal, 135 rue Salengros à Elem. Le métro, c'est le métro Mairie d'Elem. Les entrées sont gratuites, donc samedi 26 octobre et dimanche 27 octobre autour du cinéma à partir de 10h.
Enfin, jusqu'au 9 novembre, Bernadette Gruson, avec laquelle Micro Rebelle a eu récemment un échange, présente Miroir, une installation sonore qui invite à réfléchir au travers d'œuvres d'art, aux assignations qui nous conditionnent. 11 coiffeuses et leur miroir offrent un face-à-face singulier avec 11 œuvres que le public est amené à envisager au regard de son propre reflet. Alors, asseyez-vous confortablement face au miroir, mettez le casque sur vos oreilles, appuyez sur le bouton et venez découvrir ce qui se cache derrière votre reflet. Ça se passera à Méricourt, à l'espace culturel La Gare Éco, quartier du 4-5 Sud, rue de la Gare. Cette exposition est visible aux heures d'ouverture de l'espace culturel La Gare, gratuit sur réservation. Info et réservation au 03 91 83 14 85. Et c'est la fin de cet agenda.
Eh bien, merci Aurélie. Donc effectivement, après l'agenda, c'est le moment de l'actualité et la revue de presse. Hein, actualité sociale, politique, économique, dans le bassin minier et au-delà, en France et y compris à l'international. Je vous propose de démarrer par le fait de se remémorer le 17 octobre, hein, cette semaine c'était le 17 octobre, et on souhaite ouvrir cette rubrique actualité et revue de presse par évoquer le 17 octobre 1961, il y a donc 58 ans. Ce jour-là, une manifestation rassemblant des dizaines de milliers de travailleurs algériens était violemment réprimée par la police du préfet Maurice Papon. Violemment réprimée, cela s'est concrètement traduit par des emprisonnements, des tortures et des assassinats, avec de nombreux corps balancés dans la Seine. Il nous semble important de ne pas oublier cette date du 17 octobre 1961. Dans l'actualité, hein, ce vendredi 18 octobre, vous avez peut-être été confronté à des difficultés de transport, difficultés consécutives au mouvement social à la SNCF. La Voix du Nord, sur son site internet, titre « SNCF, grève, panne d'électricité, le trafic TER est fortement perturbé ce vendredi ». Plusieurs régions, dont les Hauts-de-France, poursuit la Voix du Nord, sont touchées par un mouvement social inopiné, indique la SNCF. Le trafic est perturbé. Assurez-vous que votre train est bien prévu en gare ce vendredi 18 octobre. Et le journal poursuit. Plusieurs agents SNCF font valoir leur droit de retrait ce vendredi 18 octobre à l'appel de la CGT. La SNCF confirme un mouvement social inopiné qui perturbe actuellement le trafic dans plusieurs régions, dont les Hauts-de-France. La CGT Cheminots a appelé les conducteurs de train de toute la France à cesser le travail ce vendredi 18 octobre 2019 après une collision entre un TER et un camion survenu ce mercredi à Saint-Pierre-sur-Vence dans les Ardennes. L'accident a fait 11 blessés, rapporte France Bleu. Le conducteur, blessé à la jambe lors de l'accident, n'avait pas été prévenu du camion présent sur les voies car le signal radio n'a pas fonctionné selon la CGT et il a dû ensuite gérer seul la situation. Seul, puisqu'il était le seul agent SNCF à bord du train. Le conducteur a dû porter secours aux passagers, car c'était le seul agent SNCF à bord, a déploré dans un communiqué Sudrail. La Fédération CGT des Cheminots nous a par ailleurs fait parvenir un communiqué. Quelques extraits. La colère s'étend. Un accident qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques a eu lieu le 16 octobre 2019 en Champagne-Ardenne. En effet, un train a percuté un convoi exceptionnel sur un passage à niveau. 70 voyageurs étaient à bord. En cause, les choix irresponsables de la direction SNCF. Dans le seul but d'abaisser ses coûts de production, la direction de la SNCF a accéléré, ces dernières années, sa politique de déshumanisation des gares et des trains. Elle a pour cela généralisé la mise en place des équipements à agents seuls, EAS, équipement à agent seul, autrement dit du matériel roulant sans contrôleur, sur l'ensemble du territoire. Cette logique d'abandon de présence humaine est aussi appliquée aux gares avec la fermeture des guichets et la suppression annoncée de l'autorisation de départ. Ces choix continuent le communiqué de la CGT, ces choix contribuent à détériorer fortement le niveau de sécurité des circulations, la sûreté dans les gares et les trains. Plusieurs accidents récents viennent malheureusement renforcer cette réalité. À titre d'exemple, nous n'en citerons que quelques-uns survenus récemment. Premièrement, les deux chocs suite à accidents de personnes survenus sur la région de Paris-Sud-Est. Deuxièmement, le choc d'un train au passage à niveau survenu le 16 octobre entre Mohon et Pierre-Théron. À chaque fois, les trains circulaient en exploitation EAS, équipement à agent seul, et à chaque fois, l'agent de conduite s'est retrouvé seul et isolé à devoir traiter une multitude de procédures réglementaires et gérer les usagers, le tout en état de choc, sans dispositif de communication efficient à disposition. La Fédération CGT des cheminots exige le retour de contrôleurs sur l'ensemble de ces circulations afin de permettre aux agents de conduite de se concentrer uniquement sur la gestion de la sécurité ferroviaire. En outre, elle exige le déclenchement immédiat de rencontres en région sur l'équipement des trains. La situation insupportable que vivent les cheminots et les usagers doit cesser. La direction de la SNCF n'a pour l'heure donné aucun signe de vie. C'est inadmissible. Au moment où s'écrivent ces lignes, plusieurs régions ont décidé de débrayer massivement. La fédération CGT exige des réponses immédiates de la direction SNCF et se tient résolument aux côtés des cheminots en lutte. C'était donc un communiqué de la fédération CGT des cheminots. Il nous semblait important à Micro Rebelle de relayer ces informations syndicales qui concernent directement notre quotidien. Dans l'actualité cette semaine, on n'a pas pu échapper à l'emballement concernant le port du voile. Le point de départ, il n'est pas inintéressant de le rappeler, ce sont les déclarations d'Emmanuel Macron à l'occasion de l'hommage aux victimes de la préfecture assassinées par un de leurs collègues radicalisés. Citons cette déclaration d'Emmanuel Macron. « La nation tout entière doit se mobiliser et agir face à l'hydre islamiste. » Et la suite est tout à fait édifiante, je cite, « Une société de vigilance. Voilà ce qu'il nous revient de bâtir. Savoir repérer au travail, à l'école, les relâchements, les déviations. » Fin de citation. C'est un beau projet de société que nous propose Emmanuel Macron. Une société dont la devise pourrait être « Dénoncez-vous les uns les autres, les unes les autres. » Il y en a que ça a manifestement inspiré. En effet, aussitôt, un conseiller régional, Rassemblement National, demande à une mère de famille en sortie scolaire d'ôter son voile et publie une vidéo sur les réseaux sociaux. De là, les médias s'emballent et nous refont le coup de la défense de la laïcité, en fait, une campagne contre les musulmans. La droite, avec ce responsable fraîchement élu et qui n'en demandait pas tant, demande aussitôt le vote d'une loi interdisant le port du voile dans les sorties scolaires. Les ministres ne sont pas en reste. Bruno Le Maire condamne le voile au nom de l'égalité des sexes. Jean-Michel Blanquer indique que le port du voile n'est pas souhaitable dans la société. Et ça continue. Une université parisienne publie une note permettant de repérer les signes de radicalisation. Et on peut s'attendre à ce que cet emballement médiatico-politicien continue de plus belle. Tout ça pose deux questions. Premièrement, il y a une vraie crainte que certains exaltés passent à l'acte et s'en prennent à des femmes voilées, sans parler de la police dont les contrôles risquent de se faire toujours plus lourds. Deuxièmement, cette opération anti-musulman n'est-elle pas au fond une nouvelle opération de diversion pour éviter de se mobiliser sur quelques sujets chauds socialement, comme l'assurance maladie ou les retraites ? Une nouvelle opération de diversion qui s'accompagne de plus de nouvelles manœuvres pour diviser les gens, les opposer les uns aux autres, les dresser les uns contre les autres. Avec l'islamophobie qui est ainsi complètement assumée au plus haut sommet de l'État, c'est un véritable permis de discriminer qui est délivré. et le gouvernement veut ainsi pointer un prétendu ennemi intérieur en pleine période de mobilisation sociale. Pas sûr que ces sordides calculs rencontrent l'écho espéré, notamment si nous savons manifester notre solidarité aux victimes de l'islamophobie. Dans la presse régionale, nous avons relevé cet article de La Voix du Nord. Extrait. Deux corps et des canaux pneumatiques retrouvés sur la plage. Ça se passe au Touquet. Le premier corps a été découvert hier matin, écrit La Voix du Nord, sur l'estran par un promeneur entre le Touquet et Stella-Plage. Il s'agissait de la dépouille d'un homme. Il portait sur lui un avis d'hébergement dans une structure d'accueil, indiquant un âge, 17 ans, et une nationalité irakienne. Si ce document lui appartenait bien, tout porte à croire qu'il pourrait s'agir d'un migrant qui s'était lancé dans une traversée hasardeuse. Un canot pneumatique, des rames et un gilet de sauvetage ont été découverts près de lui. Les sapeurs-pompiers d'Étaples, les hélicoptères de la Marine nationale et de la gendarmerie ont immédiatement été déclenchés et ont longuement survolé la zone afin de repérer d'autres personnes en difficulté ou décédées. La police du Touquet, le drone et deux patrouilles de moto tout-terrain de la gendarmerie complétaient ce dispositif de recherche. Ce sont d'ailleurs ces motards qui ont fait la seconde découverte en milieu d'après-midi. Le corps se trouvait à 500 mètres du premier, mais rien ne permet pour le moment d'établir de lien entre eux. Une deuxième embarcation et du matériel, apparemment caché dans les dunes, ont été ramenés au centre nautique de la Manche dans la foulée. Fin de citation. C'était donc un article de La Voix du Nord de cette semaine. Alors en effet, les contrôles dans les ports d'embarquement vers l'Angleterre sont de plus en plus stricts, ce qui entraîne que les tentatives de traversée de la Manche se multiplient. Quelques chiffres. En 2018, on a relevé 586 tentatives de traversée de la Manche. En 2019, mais seulement à la fin août, on en a relevé 1473. Autrement dit, quasiment trois fois plus sur un laps de temps de deux tiers. Ces traversées s'effectuent dans des embarcations de fortune, dans des kayaks, voire à la nage. Cette traversée fait 30 km, mais sur une mer dangereuse. Ce sont les accords entre pays riches, la France et la Grande-Bretagne, qui instaurent cette frontière, entraînant le décès de jeunes de moins de 20 ans. Un petit détour maintenant par l'actualité internationale, alors que l'avenir du peuple kurde est l'objet de marchandages entre les dirigeants turcs et américains, et bientôt russes, suite à l'attaque turque de ces derniers jours. Nous en parlions récemment sur les ondes de Micro-Rebelles et de ses partenaires. Il existe une réelle solidarité envers le Rojava, le Kurdistan syrien, en témoigne cet article dans La Voix du Nord. Près de 300 manifestants en soutien aux Kurdes de Syrie. À l'île des 15 heures, près de 300 manifestants se sont rassemblés, place de la République, pour dénoncer l'offensive turque menée depuis le début de la semaine contre le Rojava, un territoire situé dans le nord de la Syrie. Beaucoup d'entre eux portaient les couleurs du drapeau kurde, le jaune, le rouge et le vert. On attend beaucoup de la communauté internationale. Il n'y a qu'elle qui peut sauver nos familles. Après un hommage et une minute de silence pour les Kurdes tués, les manifestants ont brandi les drapeaux. La manifestation, qui s'est terminée vers 17h, s'est déroulée dans le calme. Alors on va terminer, en tout cas pour ce qui me concerne, cette revue de presse, par ce titre dans La Voix du Nord, « Budget pour l'égalité femmes-hommes, un tour de passe-passe selon un collectif ». Donc ça c'est le titre de l'article de La Voix du Nord. Ce collectif, c'est « Nous toutes ». Et donc La Voix du Nord expose les explications de ce collectif « Nous toutes ». Le collectif affirme avoir noté un décalage entre les déclarations et la réalité sidérant. Premier argument. Sur le 1,11 milliard d'euros annoncé par la ministre, seuls 577 millions sont assurés. Les autres crédits peuvent encore faire l'objet d'arbitrage. Deuxième argument, sur le 1,11 milliard, seuls 25% concernent des politiques publiques nationales. Le reste est dévolu à un plan triennal de coopération internationale. Par ailleurs, le collectif s'étonne que tous les salaires des enseignants, des premiers et seconds degrés, donc 138 millions d'euros, soient intégrés dans le calcul du budget transversal, au motif qu'ils parleraient tous d'égalité aux enfants. La charge de nous toutes ne s'arrête pas là. Marlène Schiappa est accusée de mettre au bénéfice du gouvernement des dispositifs tels que la présence de psychologues dans les commissariats ou les correspondants locaux de lutte contre les violences intrafamiliales, dispositif qui était créé avant l'élection d'Emmanuel Macron. Fin de citation de cet article de La Voix du Nord. C'est vrai que l'on peut faire dire aux chiffres tout et son contraire. Je transmets le micro à Aurélie.
Merci. Donc, un article paru dans Politis cette semaine nous montre le témoignage d'une directrice d'une école primaire en Seine-Saint-Denis. Donc, elle témoigne des difficultés auxquelles les directeurs et directrices font face tous les jours. En effet, ce travail qui est de loin a l'air d'être un travail peu pénible, assez bien payé, n'est pas exempté des difficultés qui vont avec. Vous avez sans doute entendu parler de Christine Renon, la directrice d'école qui s'est suicidée il y a à peine quelques semaines à Pantin. Donc ce suicide a d'ailleurs eu un écho assez fort sur la toile, malgré le bon vouloir de l'éducation nationale, qui a tout fait pour enterrer l'affaire. Peu à peu, les sous-fifres de l'éducation nationale sortent du silence. D'abord les professeurs, ensuite les élèves et maintenant la direction, alors que celle-ci était le pilier même de l'éducation nationale durant les grèves du baccalauréat. En effet, les directeurs ont toujours été un soutien infaillible pour le gouvernement. Ils sont l'intermédiaire entre l'éducation nationale et les professeurs. En soi, ils gèrent les conflits et prennent sur eux de lourdes responsabilités. Eh bien, un jour, il faut savoir dire stop. Et c'est ce cri d'appel au secours que lance Catherine Da Silva, la femme qui témoigne dans cet article. Elle met en avant un grand manque de moyens, manque de professeurs, et même un manque de personnel qualifié dans la profession. Un mécanicien n'est pas dentiste, et un dentiste n'est pas boulanger. Eh bien, ici, c'est la même chose. Une personne possédant un BTS commerce n'est pas apte à travailler dans une école primaire. Ce n'est pas son domaine de prédilection. Dans son cas, c'est une pression psychologique constante. Elle n'est pas seulement directrice, elle est aussi une aide sociale, une psychologue. En somme, elle est multifonction alors qu'elle ne devrait pas l'être. Le gouvernement réduit de plus en plus le nombre de salariés, imposant des conditions de travail loin d'être idéales. Une sonnette d'alarme a été tirée depuis près d'un an. D'abord par les lycéens, rappelons-nous, qui contestaient et contestent toujours les réformes de Blanquer. Et puis par les professeurs et enfin par les directeurs qui n'en peuvent plus d'être le bouclier de l'éducation nationale. Car en vérité, à qui la faute? Aux pauvres directeurs d'école qui ne font qu'appliquer les règles ou à ceux qui les créent? À méditer.
Bien, merci Aurélie. Luc,
pour la pause musicale, on va donner dans la misanthropie et la fin du monde. Ça s'appelle « Abba l'humanité » par Trotsky Nautique. Donc c'est un groupe qui fait un peu dans le lofi, comme on dit dans le jargon, c'est un peu cheap, on dirait que c'est fait avec des jouets pour enfants, mais en réalité c'est très travaillé et très réfléchi et pas si bête que ça.
S'appeler Patrick ou Patrick. Il il a été décidé qu'à partir de dorénavant, celui-là qui fout de la musique pourrie sur YouTube en fin de soirée sera condamné à devenir fan de rock fusion. À bas l'humanité, à l'unanimité, à bas l'humanité, 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 à bas l'humanité.
À bas l'humanité, Trotsky Nautique, vous êtes toujours à l'écoute de Micro Rebelle Hebdo, magazine de l'actualité sociale et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier. Lucien, je te laisse la parole pour présenter le reportage que vont écouter nos auditrices et auditeurs.
C'est un reportage qui a été réalisé à l'occasion de rencontres régionales des Ripper Café. Alors, je ne vous en dis pas plus, hein, le reportage va se suffire à lui-même. Les Ripper Café ont le vent en poupe. On les comptait sur les doigts d'une main il y a encore 3 ans. Ils sont aujourd'hui 70 en région. Les motivations sont nombreuses pour créer ou se rendre dans un Ripper Café. Il peut bien sûr y être question de prendre un café entre habitantes et habitants d'un même quartier ou d'une même ville. Mais au-delà, on peut être motivé par des questions environnementales, par des questions financières, et assez souvent par un attachement à un objet familial ou important d'un point de vue sentimental. Micro Rebelle s'est rendu à la rencontre régionale des Ripper Café qui se tenait à Lille ce mois d'octobre 2019. Nous avons tendu notre micro à Patrick, qui encadre le Ripper Café d'Aluin, ainsi qu'à Christophe, chargé de mission Ripper Café à la MRES, la Maison Régionale de l'Environnement et des Solidarités, et organisateur de ces rencontres régionales des Ripper Café.
Bonjour, c'est Patrick de Ripper Café à Luin. Bon, à Luin, ça se passe le premier samedi de chaque mois, en après-midi. On est 5-6 bénévoles à faire du dépannage. Un peu chacun dans notre partie, plus informatique, plus électroménager. On a des machines à coudre. Alors les gens viennent, apportent leur appareil à dépanner. Alors ça peut aller du vélo à la machine à coudre. On a beaucoup de machines à café, beaucoup de fer à repasser, souvent problème de tartrage. On a quelques problèmes informatiques et chacun déponne comme il peut jusqu'à la soirée. On boit un petit café, on explique aux gens, ils nous aident, on leur montre comment ça se passe et on répare entre 50 et 80% des appareils.
Alors sur Ripper Café, il existe depuis quand ?
Bon, je dirais que ça existe depuis 2 ans. Moi, ça fait 2 ans que j'y vais.
Et alors aujourd'hui, 2 ans après quelle est la fréquentation ? Donc un samedi après-midi, combien de personnes viennent ? Bon, j'imagine que c'est variable, mais enfin, en général, comment ça se passe ?
C'est variable, on a entre 10 et 20 personnes qui viennent faire réparer des choses.
Alors comment est-ce qu'elles sont informées, ces personnes ?
Ah ben, il y a des flyers qui ont été édités, et l'information passe dans le bulletin municipal. Et comme on fait ça au niveau de la maison de jeunes, il y a quand même une information qui se diffuse de bouche à oreille.
Les personnes qui viennent, ce sont toujours les mêmes, ce sont des personnes différentes ?
Ce sont des personnes différentes. Certaines fois, les gens reviennent parce qu'ils ont un autre appareil ou l'appareil est retombé en panne, ça dépend. Ça dépend.
Le Ripper Café l'a mal réparé ?
Non, pas forcément, c'est parce qu'il y a l'utilisation, il y a Il y a peut-être autre chose qui arrive derrière. Hein. On peut pas savoir.
Moi, j'ai bien entendu ce que tu as dit. Hein, appareils électroménagers, informatique, vélo. La grosse tendance, c'est quoi ?
Oh, plus le petit électroménager. Comme ici, on a à Lille, là, on a eu du grille-pain, on a la machine à café, du robot ménager. Voilà, c'est souvent ça, quoi.
Alors donc, tu évoquais les 5 bénévoles qui prennent en charge le Repair Café. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous avez une formation particulière, que vous avez une expérience ?
On a une expérience, certains par leur métier et d'autres par passion. Quoi. Comme moi, je fais de l'informatique par passion, de la photo, tout ça par passion. Et je démontre par passion. Voilà.
Alors ce week-end à Lille, c'est une rencontre régionale hein, de l'ensemble des Repair Café. Qu'est-ce qui s'y passe ? Qu'est-ce qui s'y dit ? Qu'est-ce qu'on y apprend ?
Ben, l'intérêt, c'est de confronter un peu nos expériences et puis on apprend diverses choses. Moi, j'ai regardé plus l'atelier informatique parce que c'est ce qui m'intéresse. Et, bon, on écoute un peu, on apprend quelques petits tuyaux, quelques petits trucs. Voilà.
Donc, Christophe Godon, je suis animateur d'un Repair Café sur Lille et j'anime aussi la mise en place d'un réseau régional des Repair Café Hauts-de-France. Donc aujourd'hui en Hauts-de-France, il y a 70 Repair Cafés qui existent. La plus grosse concentration est sur Lille, mais il y en a aussi pas mal sur la Côte d'Opale et sur Dunkerque. Et puis là, la Picardie aussi s'y met. Quoi.
Au niveau historique, ça a démarré quand, comment, où ?
Alors, le premier Repair Café, c'était en 2009 à Amsterdam, par Martin Posma. Dans la région, il faut attendre 2013 à peu près. Tout au sud de la région, du côté de Bral. Donc voilà, c'est pas en Nord-Pas-de-Calais que ça s'est passé pour la première fois. Et après, en 2013, il y a eu aussi pas mal de tests d'ateliers de réparation avec le Jardin d'Ébène, avec l'association Astuces sur Roubaix, avec les makers lillois aussi qui avaient fait un réparathon. Et ça a débouché sur un Repair Café en 2014 à Lille et un autre sur Roubaix voilà, qui a été mis en place officiellement. Et depuis, ben ça n'arrête pas. On va dire que la première grosse impulsion, ça a été en début 2017. Il y a eu à peu près un Repair Café par mois qui s'est mis en place et ça n'arrête pas en fait depuis.
Alors est-ce qu'on a une idée, bon j'imagine que c'est hétérogène, mais une idée de ce pourquoi viennent les gens ? C'est pour des vélos, des machines à laver, des cafetières électriques ?
Alors c'est très très hétérogène parce que suivant le Repair Café on ne répare pas tout à fait les mêmes choses. Après ce qu'on retrouve le plus hein, c'est aspirateur, grille-pain, cafetière, voilà plutôt du petit électroménager, un peu d'informatique mais voilà.
Et les bénévoles, on dit ceux qui encadrent, ceux qui réparent en quelque sorte, c'est leur profil, qu'est-ce que c'est ? C'est des retraités, des jeunes, des professionnels, des passionnés en tout cas ?
Ouais, des passionnés, ouais, ça c'est sûr. Après, on retrouve surtout, on retrouve pas mal de retraités. Ça dépend beaucoup des Repair Cafés aussi. Voilà, les Repair Cafés ruraux, effectivement, on retrouve pas mal de Repair Cafés, de retraités, pardon. Et après, on retrouve pas mal de jeunes aussi, qui sont soit des étudiants, soit des personnes en activité. C'est assez chouette. C'est assez masculin, voilà, ça faut le reconnaître, dans les réparateurs. Et après, au niveau des bénévoles, on retrouve des personnes qui sont à l'accueil, qui vont s'occuper d'accueillir le participant, qui vont expliquer ce que c'est qu'un Repair Café. On n'est pas un SAV, c'est gratuit, c'est bénévole. Voilà, du coup, ça se passe toujours très bien. Elles vont aussi s'occuper de la partie café. Et puis après, il y a d'autres bénévoles qui sont pas forcément des réparateurs professionnels, entre guillemets, ou des réparateurs experts, on va dire plutôt. Mais par contre, qui n'ont pas peur de démonter un appareil, de regarder, d'aller chercher ce qu'il y a et puis de demander de l'aide. Quoi.
Alors peut-être on évoque les passionnés de la technique et puis du bricolage ou du bidouillage. Est-ce qu'il y a aussi des questions de valeur, autrement dit les questions de ne pas jeter, recycler ? Est-ce que ça se pose aussi, autrement dit, imaginer ce que ça pourrait être une société qui consomme autrement ?
Oui. Alors, du point de vue des participants, en fait, effectivement, il y a ceux qui ont vraiment à cœur de pas jeter, pas gaspiller, qui ont vraiment l'aspect environnemental est très très imprimé. Et après, il y a aussi ceux qui, économiquement, ils trouvent un intérêt. Un aspirateur, ça coûte relativement cher. Donc, quand on arrive à en réparer un, c'est super. Des fois, une cafetière aussi, ça peut coûter cher. Donc voilà. Et puis après, il y a d'autres personnes aussi, mais bon, c'est plus anecdotique, hein, qui ont une valeur sentimentale avec l'objet. ça a appartenu à leurs grands-parents, ils veulent le repasser à leurs enfants, ou bien ça fait longtemps qu'ils l'ont, donc ils veulent pas le jeter, quoi. Il y a aussi ça qui rentre en ligne de compte. Puis des fois, c'est les trois, hein, voilà.
Une toute dernière question, plus personnelle. Ton rôle, qu'est-ce que c'est? C'est créer des nouveaux Repair Cafés? C'est mettre en musique les Repair Cafés? C'est de la formation?
Bon, un peu de tout ça, en fait. Moi, j'ai aussi une mission d'accompagner des nouveaux Repair Cafés qui vont se mettre en place. Donc voilà, j'ai une petite méthode pour aider, accélérer. Après, j'en anime un, donc, sur l'île. Et puis après, effectivement, c'est essayer de... mettre en place un réseau où on va tous partager, mutualiser, avoir une gouvernance partagée, voilà, qu'on va tous faire en fait, et ça c'est chouette.
Là, vraiment la toute dernière, là, cette fois-ci, pour être très concret, je veux créer un Repair Café sur Liévin, qu'est-ce qui va se passer?
Déjà tu vas chercher comment créer le Repair Café, donc peut-être que tu vas tomber sur la référence du Repair Café Lille, l'accompagnement qu'on peut mener, et puis me téléphoner ou m'envoyer un mail, et puis voilà, on prend contact, un rendez-vous téléphonique ou un rendez-vous comme ça, puis voilà quoi.
Alors il y a une adresse mail, il y a un numéro de téléphone?
Alors numéro de téléphone 03 20 52 12 02 et une adresse mail c'est repair@mres-asso.org.
Voilà un reportage sur la rencontre régionale des Repair Cafés à Lille. Voilà, renseignez-vous un peu sur internet, il y a quelques Repair Cafés dans le coin si ça vous intéresse, notamment à Mazingarbe ou à Arras, et puis rien ne vous empêche d'essayer d'en créer un. On va maintenant vous proposer un autre reportage réalisé dans le cadre de nos ateliers radiophoniques pédagogique, des personnes de l'école des consommateurs de Arnes, à qui nous apprenons les rudiments du reportage sonore, se sont déplacées à la maison des ados de l'Artois, une structure qui accueille les jeunes et les accompagne dans leur vie d'adolescents plus ou moins tumultueuse.
Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter la maison des ados à Hénin-Beaumont. Pour comprendre son fonctionnement et ce qu'elle propose aux adolescents, nous avons visité les lieux et interviewer certains membres de l'équipe.
Pour commencer, nous laissons la parole à Cécile Daron qui nous explique pourquoi la Maison des Ados a été créée.
Je suis la responsable de la Maison des Adolescents de l'Artois depuis maintenant presque 5 ans. Une maison qui a été ouverte en 2012, donc qui est encore assez récente. Et je suis arrivée ici en février 2015. La Maison des Ados a été créée afin d'accueillir tous les adolescents. Donc ici, on accueille des adolescents entre 10 et 21 ans, qu'ils aient ou non des problèmes. On accueille ici des ados qui viennent se poser, utiliser les ordinateurs, faire un baby-foot et profiter de cet espace qui leur est dédié et qui est animé par deux accueillants écoutants durant toute l'après-midi de 13 à 18 heures. Et s'ils le souhaitent, ils peuvent aussi demander à bénéficier d'un accompagnement par un membre de l'équipe, donc une équipe qui est composée de psychologues, de diététiciennes, d'infirmières, d'éducatrices spécialisées, d'assistantes sociales, et puis d'autres professionnels que nous accueillons aussi par convention, comme une juriste par exemple, une médiatrice aussi, une consultation du centre de planification, aussi un enseignant qui vient le mercredi après-midi pour aider aux devoirs. Donc ces maisons des adolescents, la toute première ouverte au Havre date de 1999. Alors l'impulsion de ces maisons des ados, c'était à l'époque Bernadette Chirac qui a souhaité effectivement dédier des lieux comme ça, spécifiques aux ados. Et c'est ce qui a été mis en place. Aujourd'hui, il y a environ les deux tiers du territoire national qui est couvert par une maison des adolescents.
Pourquoi Hénin-Beaumont et pas Lens par exemple?
Alors sur le département du Pas-de-Calais, nous avons la chance d'avoir deux maisons des adolescents. Une à Saint-Omer qui a aussi une annexe sur Boulogne-sur-Mer et une ici à Hénin-Beaumont. Donc en fait, une pour le littoral et une pour l'intérieur, l'Artois. Et pourquoi Hénin-Beaumont, alors qu'effectivement le territoire d'intervention de la Maison des Ados de l'Artois est très très large, puisqu'il va jusque Lillers, Auchel, Béthune, Saint-Paul-sur-Ternoise, Arras, Bapaume, Lens, Liévin et Nacarvin. Eh bien, tout simplement parce qu'à l'époque où le département a souhaité la mise en place de ces maisons des adolescents, puisqu'elles sont administrées par le département du Pas-de-Calais, il a fait un appel à candidature et la commune Titan de pédopsychiatre.
Pouvez-vous nous décrire l'équipe de professionnels qui travaillent dans la structure ?
Alors, c'est une équipe qui est composée de 3 psychologues, d'une diététicienne, alors en fait on en a 2, mais qui travaillent toutes les 2 à mi-temps, d'une infirmière, un animateur, une éducatrice spécialisée, une assistante sociale et une secrétaire. Chacun, comme je vous le disais, accueille les ados sur l'espace accueil l'après-midi entre 13 et 18 heures, mais également qui accompagne des adolescents, plus spécifiquement, individuellement, avec leurs accompagnants, bien souvent les parents, mais ça peut être aussi une assistante familiale, par exemple, sur des problématiques que les adolescents nous amènent, qui vont être des problématiques de tout type. Hein. Alors, bien sûr, tout ce qui va tourner autour de l'estime de soi, de la confiance en soi, mais aussi des problématiques de surpoids, par exemple, hein, ou de relations aux autres, des difficultés à faire confiance, des difficultés à se comporter dans le groupe, et bien évidemment, après, des situations davantage de mal-être, d'angoisse, de harcèlement scolaire, bien sûr, des difficultés autour de la pratique des réseaux sociaux, des jeux vidéo. Voilà, c'est très très vaste. On peut accompagner ici l'ensemble des difficultés que peut rencontrer à un moment donné de sa vie certains adolescents, parce que je tiens quand même à dire que la plupart des adolescents vont très bien, et que voilà, on voit aussi des ados qui vont très bien, mais on est là aussi pour ceux qui vont à un moment donné un peu moins bien et qui ont besoin d'un accompagnement avec leur entourage.
L'ouverture d'autres centres dans la région est-elle prévue ?
À ce jour, non, ça n'est pas prévu. Par contre, nous sommes là pour accueillir les ados et nous travaillons aussi en lien avec des relais hein, sur le département. Je pense aux points accueil et coup de jeunesse qui sont bien implantés sur l'ensemble du département. Voilà, mais aussi en lien avec les clubs de prévention, les centres sociaux, les PRE, parfois présents aussi sur les territoires, pour permettre une couverture la plus large possible concernant les situations d'enfants en difficulté.
Est-ce que vous auriez des conseils pour mieux gérer cette période parfois difficile qu'est la crise d'adolescence ?
Alors déjà, je vais dire que la crise d'adolescence, d'abord, elle n'existe pas toujours. Que parfois, on peut aussi parler de la crise de la quarantaine pour les parents, de faire un petit lien, hein, parce que on fait notre crise un peu ensemble. Alors les conseils, bah, c'est d'être peut-être au maximum à l'écoute de cet adolescent qui est en train de grandir. Hein. On dit que l'adolescence, c'est un passage entre l'enfance et l'âge adulte. Et si on regarde bien dans le mot passage, il y a pas et il y a sage. Il y a pas sage. Donc voilà, c'est une période pendant laquelle l'adolescent va forcément, pour se construire, venir se confronter un petit peu au modèle qui l'entoure et aussi au monde, au modèle parental. Donc c'est d'essayer de comprendre que cette période est essentielle à son évolution, d'accepter aussi qu'il est en train de grandir, de devenir un peu autonome et que quelque part ben, on perd le petit enfant que nous avions. Et de s'entourer au maximum aussi, de pouvoir en parler, on est là aussi pour ça. Voilà ce que j'aurais à dire comme conseil, d'être patient aussi, parce que c'est pas toujours très rigolo, hein. C'est pas facile d'être parent, et de préciser aussi qu'il n'y a ni mauvais parents, ni mauvais enfants, ni mauvais ados.
À notre micro, Cécile Daron, responsable de la Maison des Ados. Nous avons également rencontré Nordine, animateur, qui nous parle de son travail.
Mon travail va consister à accueillir tous les ados qui franchissent la Maison des Ados pour pouvoir les mettre en confiance et puis aussi leur expliquer qui nous sommes, qu'est-ce qu'on peut leur proposer et puis comment on peut répondre aussi à toutes leurs questions et à toutes leurs attentes.
Est-ce facile pour les ados de franchir la porte de l'endroit ?
Pour un ado, ça peut être en fonction de son tempérament, ça peut être, c'est vrai que rentrer dans un endroit qu'on ne connaît pas la première fois, c'est toujours un petit peu angoissant, on va dire, mais on arrive aussi à les recevoir et à leur proposer des choses pour dire, ben voilà, vous êtes arrivé dans une structure et puis en fonction de la demande, on va s'adapter à chaque jeune. On va pas non plus les déranger directement, ça sera à l'ado de venir poser ses questions et puis de se sentir rassuré.
Pouvez-vous parler des différents ateliers que vous proposez ?
Moi, je propose donc des ateliers qui s'appellent l'atelier secret et un atelier possible. Donc, on va travailler surtout autour de la confiance en soi, de l'estime de soi et puis du bien-être. Donc, on va travailler sur toutes ces thématiques pour que le jeune puisse avoir des réponses à ces questions et puis se sentir bien pour passer le cap de l'adolescence. Dans le détail, alors, on va proposer déjà comment pouvoir parler aux autres, comment aussi se sentir à l'aise et puis se dire je suis pas si différent. Et donc on va proposer par exemple des questionnaires sur lesquels on va plutôt jouer. Ça sera surtout autour de l'aspect ludique. Donc il va y avoir un portrait chinois, on va réaliser différentes petites scénettes s'il le faut. Donc le tout c'est de pouvoir prendre la parole, s'exprimer et puis aussi se sentir détendu. Et d'ailleurs il y a même de la relaxation. Voilà, on va partager aussi un temps pour le repas, donc c'est aussi un temps, on va dire, important, puisqu'on va parler autour de l'équilibre alimentaire, et puis se dire que chaque jeune peut apporter des solutions et même des informations aux autres jeunes aussi.
Quel type de jeunes fréquentent la maison des ados ?
Alors, on va dire que tous les jeunes qui viennent, alors ils peuvent venir de tous les milieux. Il n'y a pas vraiment des jeunes bien, on va dire, arrêtés. C'est en fonction de l'âge aussi. Donc, effectivement, on va aussi s'adapter à l'âge de l'ado, en fonction aussi des problématiques. Et puis, le tout, c'est aussi, c'est comment le jeune appréhende quand il arrive ici. C'est comment on va mieux l'accueillir. On va pas non plus lui sauter dessus et lui poser des questions. S'il y a besoin de 2-3 jours pour venir, déjà nous voir, nous observer, savoir qui on est, il faut aussi que c'est plutôt à nous de s'adapter aux jeunes et non pas l'inverse. On va faire avec sa demande et on va faire aussi, je dirais, en toute patience. Et puis, une fois que le jeune est pris, il s'est trouvé dans un endroit de confiance. À partir de là, il va pouvoir s'exprimer et puis la confiance et le travail pourront commencer. I'm just all about feeling good, man. Getting right where you need to be, you feel me? Top shelf in the jar, that's where I am. Got so fried on this cherry pie. Sippin' something out the bottle, but it's liquor though. I don't pull foes no more. Still high, feeling right where I need to be. Flying in the twin turbo with my brother B, cause he got a need for speed. I'm just smoking with my dog. Roll another one in the raw, or probably in the zag. Trying to live life to the max. Après Nordine, nous avons rencontré Sabrina Franck, éducatrice, à qui nous avons posé quelques questions.
Comment se passe le premier rendez-vous pour un ado?
Alors le premier rendez-vous est fixé pendant une heure sous forme de visite. L'ado, alors soit seul, soit avec la personne qui l'accompagne, est accueilli ici par un des professionnels qui va lui faire visiter les lieux et lui expliquer comment fonctionne la maison des ados. À la fin de la visite, en fait, on s'installe dans une salle pour discuter un petit peu de ce qu'il amène plus précisément et surtout de sa demande, s'il en a une. Quand il va repartir, il repartira pas avec un rendez-vous en poche. L'équipe va en parler en réunion d'intervision le vendredi matin et ensuite on le rappellera pour pouvoir lui faire des propositions d'accompagnement en fonction de sa demande.
Quels sont les problèmes les plus fréquemment rencontrés par les jeunes et qui font qu'ils viennent vous voir?
Les problèmes les plus fréquemment rencontrés, on a des thèmes qui reviennent, hein, même si on n'a pas forcément les chiffres. Voilà, Madame Daron, on en a parlé un petit peu tout à l'heure aussi. On a à la fois tout ce qui va toucher aux écrans, tout ce qui va toucher au harcèlement scolaire. On a aussi pas mal de jeunes qui viennent concernant les relations aux autres, qui peuvent être compliquées. On a aussi tout ce qui est problèmes familiaux. Pour diverses raisons, hein, les problèmes familiaux, que ce soit des relations qui se dégradent, que ce soit une séparation, que ce soit un deuil, que ce soit, voilà, il y a plein de raisons à ça. Et du coup, ça va être vraiment très, très diversifié. Ça peut être aussi par rapport à l'école, par rapport au travail scolaire, rencontrer des difficultés. Il y a vraiment tout un panel de problèmes qu'on peut rencontrer à l'adolescence et que du coup, on retrouve ici. Alors après, ça va être surtout rythmé en fonction des périodes de l'année scolaire, par exemple tout ce qui est harcèlement scolaire. Là, on va recevoir de plus en plus des jeunes sur cette thématique-là. Après, forcément, à partir du printemps, c'est quelque chose qu'on va avoir de moins en moins ici. Parce qu'entre le printemps et les grandes vacances, après, voilà, ça diminue petit à petit. On pense aux examens. Après, il y a les vacances, donc on s'occupe plus trop de cette thématique. Enfin, c'est moins présent, en tous les cas, chez les adolescents. On va avoir des périodes comme ça. Tout à l'heure, je parlais de deuil aussi dans la famille. Les périodes les plus compliquées, ça va être là maintenant à la Toussaint, ça va être ensuite à Noël, voilà, parce qu'il y a des fêtes familiales, parce qu'il y a plein de choses qui rappellent ça aussi.
Dans un article de La Voix du Nord, vous parliez de la boîte à mouchoirs. Qu'est-ce que ça représente ?
Alors, bon, on fait pleurer les gens, les parents et les ados. Alors, la boîte à mouchoirs, c'est vrai qu'on en met un peu partout, dans toutes les salles. L'idée, c'est vraiment de qu'elle puisse être à disposition. Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est pas simple de venir parler de ce qui va pas ou des sujets sensibles, même si parfois ça va, mais ça reste un sujet sensible ou dont il est délicat de parler. Donc, on est aussi une structure où on vient parler de ses émotions, déposer ses émotions. Et du coup, la boîte à mouchoirs est vraiment utile ici. Voilà. Il y a souvent des gens qui s'excusent de commencer à se mettre à pleurer, d'avoir des émotions. Et on leur dit non, on est là aussi pour ça. Et on a besoin aussi que les gens viennent nous amener toutes leurs émotions, tout ce qui va pas, tout ce qui est compliqué pour eux, pour pouvoir nous reprendre et travailler à partir de ça.
Peut-on bénéficier d'aide médicale pour les problèmes que rencontrent les jeunes ? Contraception, grossesse, drogue, alcool, etc.
On peut venir rencontrer un professionnel sur ces sujets-là ici. Par contre, quand on parle d'aide médicale, il y a toujours des sujets pour lesquels on va renvoyer en premier lieu vers le médecin traitant. Forcément, nous, on ne va pas remplacer le médecin traitant et on va toujours renvoyer vers lui en priorité sur certaines questions, notamment aussi sur des questions d'urgence pour un ado qui va mal et qui est en crise suicidaire. S'il y a un danger, un risque de danger là-dessus, dans tous les cas, nous, on peut le recevoir après, mais hormis la crise aussi, pour pouvoir en discuter et pour pouvoir aller plus en profondeur. Et dans l'urgence, on va l'orienter soit à l'hôpital, soit vers le médecin traitant en fonction des situations, mais voilà. Alors pour tout ce qui est contraception grossesse, alors on a, comme on disait tout à l'heure, une permanence du centre de planification. Donc tout est entièrement gratuit. Voilà, les jeunes peuvent venir ici poser les questions, demander à faire des examens, aussi se faire prescrire une pilule ou poser un implant, etc., un stérilet. Ce qui peut être fait aussi, c'est que comme on a une infirmière sur place toute la semaine, parce que les permanences du centre de planification, c'est qu'une fois par semaine. Elle peut aussi parfois, alors soit pour dépanner, proposer un test de grossesse, quelque chose comme ça. Une jeune qui vient parfois à l'improviste, elle peut lui faire faire un test de grossesse. Et l'infirmière travaille aussi beaucoup sur toutes ces questions de vie affective et puis de sexualité. Et donc dans ses entretiens, elle va être amenée facilement aussi à aborder les relations avec l'autre, les relations amoureuses avec les ados. Parfois, c'est un âge aussi où on se pose pas mal de questions par rapport à ça. C'est pas facile de les poser aux parents. Ça va se travailler essentiellement avec l'infirmière. Infirmière qui a aussi de l'expérience. Alors avant, elle travaillait dans un CARUD, donc avec des consommateurs. Donc tout ce qui est drogue et alcool, elle va pouvoir aussi l'aborder avec des jeunes, répondre aux questions. C'est pas la seule à pouvoir aborder ces questions-là. On a aussi une des psychologues, par exemple, qui va pouvoir aborder la question des consommations, mais elle sous un autre angle, du coup.
Qu'est-ce que vous leur apportez pour aider en matière d'alimentation et de bien-être corporel ?
Alors, au niveau des rendez-vous diététiques, comme tout le reste ici, c'est entièrement gratuit, ça se fait sur demande. Évidemment, s'il y a quelque chose d'un peu trop complexe ou s'il y a déjà un suivi important dans un centre hospitalier, on va d'abord renvoyer peut-être vers le médecin traitant ou vers l'hôpital. Mais après, voilà, quand ça reste simplement un suivi, ça peut se faire ici. Donc c'est des rencontres avec la diététicienne. Généralement, elle reçoit, alors même si on peut recevoir des ados seuls ici, et il y a des ados aussi qui peuvent venir sans l'autorisation des parents à la maison des ados, quand il y a un parent ou un adulte qui accompagne, la diététicienne préfère le recevoir avec, surtout si c'est la personne qui prépare les repas. Donc si c'est un ado qui est un peu plus âgé et qui se débrouille, qui est un peu plus autonome, elle va pouvoir le recevoir seule, mais quand c'est quelqu'un d'un peu plus jeune, elle aime bien généralement recevoir la personne qui fait les repas. Parce que ça sert à rien de donner les conseils à l'ado si la personne qui fait les repas continue et change pas les habitudes alimentaires. Et puis les consultations diététiques, elles se font pour plein de raisons différentes. On a des jeunes qui veulent perdre du poids, mais on a aussi ceux qui veulent en prendre. On a des jeunes qui veulent changer de régime, par exemple devenir végétarien, ou voilà, changer des choses à leur alimentation, ou manger plus sainement. On a aussi des jeunes qui pratiquent beaucoup de sport et qui veulent des conseils pour savoir bien s'alimenter quand ils font du sport.
Pouvez-vous nous rappeler les informations pratiques ?
Alors, informations pratiques, on peut être contacté par téléphone, liste de rendez-vous. On peut se présenter également sur place à l'accueil, l'après-midi, pour prendre un premier rendez-vous. On est aussi joignable, alors on a une page Facebook, où on y met pas mal d'informations, on partage des articles qui concernent les adolescents, et puis on met aussi des photos de ce qu'on fait, hein, parfois. Et puis, du coup, avec le lien Messenger, on peut nous envoyer aussi des messages privés pour pouvoir nous contacter, prendre un renseignement, quoi que ce soit.
Ces interviews ont été réalisées à la Maison des ados de l'Artois afin de mieux connaître ce lieu. Merci à l'équipe pour l'accueil.
Ce reportage a été réalisé par
Marie-Françoise,
Bertrand,
Philippe
et Christelle de l'École des consommateurs.
Avec la participation de Nadine.
Ce micro-rebelle hebdo se termine. Retrouvez-nous sur microrebelle.fr chaque semaine, le vendredi à 18h ou bien en podcast. Merci à nos amis de la Franf, Radio PFM Arras et Radio Plus à Douvrin pour les rediffusions. On va revenir à Trotsky Nautique, ce groupe post-apocalyptique avec un titre qui s'appelle HLM.
Dans mon HLM, y'a quelqu'un, je sais pas qui c'est, et j'en ai rien à foutre. Au premier, dans mon HLM, y'a quelqu'un, je sais pas qui c'est, et j'en ai rien à foutre. Au deuxième, dans mon HLM,
sur la Gaule corrompue.